Phil PM. La voix est libre.
That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation.
Voici Luc Lavoie.
Déclaration très lourde hier de Mike Pompeo, donc qui est le secrétaire d'État des États-Unis, qui déclare que c'est l'Iran qui est responsable de ces attaques contre deux supertankers qui ont explosé en flammes. Une partie de l'équipage a été évacuée, a dû évacuer. Et tout ça s'est passé à un endroit extrêmement critique et stratégique, Luc.
Le détroit d'Hormuz, la mer d'Oman. Écoute... Ça fait là, depuis hier soir là, que je fouille n'importe où, dans n'importe quelle publication au monde pour essayer de comprendre ce qui est arrivé là. Je ne crois pas la version de Pompeo, confirmée par Trump. Maintenant, qui aurait pu faire ça? Alors allons-y, petit à petit. Premièrement, oui. Le super tanker, le super pétrolier qui a été un des deux appartenait à une compagnie japonaise. Le président de la compagnie japonaise, qui était donc le président de la compagnie qui possédait ce super pétrolier, a déclaré que ça ne pouvait pas être des mines qui ont été posées, comme le dit Pompeo, parce que les membres de l'équipage ont vu très nettement un objet volant se dirigeant vers eux et bang, sauter le long du bateau. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le même jour où ce bateau japonais était attaqué, le premier ministre du Japon était en Iran, en visite officielle. Et évidemment, c'est un des plus grands clients de l'Iran, le Japon, parce que le Japon va chercher 80 % de son pétrole là. Il passe tout passe par la mer d'Oman et le détroit d'Hormuz. Alors, quel aurait été l'intérêt des Iraniens de tirer sur un bateau japonais pendant que le premier ministre japonais est là-bas? Difficile à comprendre.
Alors que c'est leur pétrole qu'ils vendent aux Japonais.
Ben oui, mais là, Bernard, il y a plus, là, tu sais. Sur le plan militaire, tu sais, les images qu'on nous montre, c'est qu'un bateau, pendant la nuit, un petit bateau, serait retourné le long du super pétrolier pour retirer une mine qui n'avait pas explosé. Ça, ce sont les images qu'utilise Pompeo pour nous dire, si tu vois, c'est les Iraniens qui ont fait ça. En même temps...
Ça serait quoi? Ça serait des drones?
Ben ça m'apparaît évident que ce sont des drones. Et il se trouve que le même matin, Bernard, des bases aériennes militaires de l'Arabie saoudite ont été attaquées par des drones explosifs, des drones contenant de l'explosif. Alors, on dirait que ça vient plus ou moins de la même source, mais... Et la source apparaît être le Yémen où il y a une guerre civile sanglante à l'heure actuelle qui oppose des chiites appuyé par l'Iran, à des sunnites appuyés par l'Arabie saoudite. Exact. Alors, qui est le premier à tirer? Moi, j'arrive pas à croire l'histoire de Pompeo. D'abord, cette histoire qu'on va aller récupérer une mine le long du bateau, je crois pas ça du tout. Militairement, ça n'a pas de bon sens.
Qui a intérêt? C'est ça qu'il faut chercher. Là. Qui a intérêt, Luc, à ce que ça s'escalade et que les tensions deviennent de plus en plus vives dans cette région-là du monde? Est-ce que l'Arabie saoudite.
Alors, moi, je sais pas, là. Je te dis, l'Arabie saoudite a été attaquée sur une de ses bases aériennes militaires sur son territoire par drones qui étaient en provenance du Yémen.
Elle aurait, mettons, là, on jase, là, mais l'Arabie saoudite pourrait vouloir mener des attentats comme ceux-là pour faire croire que c'est les Iraniens?
C'est une opération d'intox. C'est une opération pour faire croire que ce sont les Iraniens. Ça m'apparaît à peu près sûr que c'est le cas. Et je veux dire... Évidemment, ça crée une zone...
Pour entraîner les Américains dans un conflit contre l'Iran?
Ben ouais, mais moi, je pense que les Américains sont pleinement complices dans cette histoire.
Oh,
je pense que c'est une opération de poudre aux yeux, semblable à ce qu'on avait appelé autrefois, pour ceux qui sont assez vieux et peut-être en es-tu, Bernard, l'incident du golfe du Tonkin, qui avait été, un bateau militaire américain qui avait été pris d'assaut par des forces nord-vietnamiennes et ça avait servi de prétexte à Lyndon B. Johnson pour déployer 550 000 troupes au Vietnam.
Alors, t'es-tu en train de nous dire... Mettons que ton hypothèse est exacte, OK? Mettons qu'elle est factuelle. Si c'est exact, c'est donc une stratégie pour en venir à un conflit plus ou moins ouvert avec l'Iran. Donc, il y aurait une décision politique stratégique de l'administration Trump d'en venir au coup avec l'Iran?
Oui, tout à fait, oui. Et vous avez l'Alliance de l'autre côté, l'Arabie saoudite qui se veut le nouveau leader du monde sunnite, rôle qui appartenait autrefois à l'Égypte, mais l'Égypte n'a plus les moyens d'assumer son rôle. Alors, l'Arabie saoudite est là. Elle a un allié secret, mais pas trop, trop secret, vraiment.
Non, de moins
Israël,
en moins secret.
Ben, Israël. Oui. Puis elle a un autre allié inconditionnel, les États-Unis, de qui elle achète des armes par centaines de milliards. L'année dernière, Trump s'était vanté d'un contrat de 110 milliards de dollars. Il y a quelqu'un qui veut que la guerre prenne, là. Moi, je regarderais dans la direction du sympathique Mohamed Ben Salman, là, le nouvel homme fort de l'Arabie saoudite, celui qui a commandé le meurtre du journaliste, ouais, l'assassinat.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, c'est bon. Tout mais ceci écoute, étant dit, les gens nous écoutent puis ils disent mais c'est là, tout du chinois, c'est tellement loin. Attention, le golfe d'Ormuz puis la mer d'Oman, si jamais ça devenait bloqué ou impossible à naviguer à cause d'un conflit armé.
Vous allez payer votre gage cher,
oh
les amis.
Oh boy! D'ailleurs, il a commencé à monter depuis hier.
Oui,
hein?
Ben oui,
c'est comme
ben
tout ben ce, oui. cette énorme quantité de pétrole qui est extraite de cette région du monde passe par le golfe.
Le détroit d'Ormuz, juste pour que les gens nous suivent, là, c'est un détroit très étroit par lequel passent 2400 pétroliers chaque année. Et ça, oui. C'est le pétrole de l'Iran, le pétrole de l'Arabie saoudite, le pétrole de l'Irak, le pétrole du Koweït, le pétrole, enfin, l'essentiel du pétrole produit au Moyen-Orient.
Essentiellement, tout le pétrole du Moyen-Orient presque passe par là, même alors, celui qui s'en va vers l'Europe.
Et l'une des grandes inquiétudes, et c'est pas pour rien que des bases navales américaines à proximité du détroit d'Ormuz, notamment à Bahreïn, c'est que s'il fallait que des super pétroliers coulent dans le détroit, ça pourrait carrément bloquer le trafic pétrolier. Et là, à ce moment-là, les coûts de brut et donc les coûts de l'essence.
Ah, ce serait une crise mondiale.
Je sais pas combien on paierait du litre, mais on paierait.
On parle peut-être de.
Hein? 2-3 piastres, 4 piastres du litre, là. Je veux dire, ça pourrait être fou, là.
Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, juste à l'œil, sans avoir fait, mais le calcul rapide, il doit y avoir à peu près 20 millions de barils de pétrole par jour qui sont produits dans cette région du monde. Et ces 20 millions-là ne disparaîtraient pas du marché parce qu'il y a quand même des pipelines, ta méthode favorite, Bernard.
Mais
il y a les super tankers en transport au moins 50 %. Alors, comme tu dis, s'il y en a un qui coule, il bloque. Mais s'il y a simplement un conflit armé, si au lieu d'envoyer un drone dans la coque d'un super pétrolier, on envoyait un missile, comprends-tu, venu d'un avion de combat ou une torpille venue d'un sous-marin d'attaque... Oh, là, monsieur, on serait dans une zone de conflit, mais énorme. Et ce qui arriverait, évidemment, c'est que l'Iran est un beaucoup plus grand pays en termes de population et également de masse terrestre que l'Arabie saoudite. C'est quoi, 30 millions d'habitants versus à peu près 85 millions en Iran. C'est sûr que l'Arabie saoudite pourrait pas gagner une guerre contre l'Iran.
Non, mais attends,
sauf que
rappelles...
si on a Israël avec eux, en sous-main, et qui ont les États-Unis avec eux, avec les satellites de surveillance, avec tous les systèmes de contrôle aérien, ils sont capables, les Américains, d'aller donner un support presque total, à l'exception, mettons, de ce qu'on appelle « boots on the ground ». Alors, on dirait qu'il y a un scénario qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que même si c'est loin... Il faut continuer à garder un œil là-dessus, Luc, et je t'arrête dans ton... Enfin, tu étais en train de poser l'avion. Je vais te laisser poser l'avion, prendre ton souffle, parce qu'au retour, on veut parler d'autre chose.
Oui, monsieur.
Qui est un sujet... Écoute,
Bernard...
un petit mariage entre ton vino puis un petit muffin aux potes, mon Luc.
Ben non.
Ça va être légal.
Ben non, c'est-tu vrai que tu fais du pâté chinois aux potes? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça.
En tout cas, une chose est sûre, si je commence en enfer à partir du mois d'octobre, ça va être légal parce que là, Justin vient de décider qu'on allait
oui,
pouvoir...
Oui, monsieur!
Oh yes, on avait besoin de ça après la pause.
Drainville PM. La voix est libre.
Et qu'on est content de savoir ça, à partir du 17 octobre, ça va être possible.
Et à partir de décembre, on va pouvoir en acheter du tout fait.
Oui, c'est ça.
Du bon manger aux potes, Bernard.
Des biscuits.
J'ai une idée pour notre avenir, toi et moi.
On va lancer
un livre de recettes. Bernard et Luc, cuisiner aux potes. Hein?
Oh,
puis c'est là que tu vas nous donner le secret de ton fameux pâté chinois dont j'ai entendu parler. C'était très célèbre, il paraît que
alors,
c'est bon.
Alors, un livre de recettes, ça va être la première affaire. La deuxième affaire, ça va être remonter vos pectoraux grâce à la crème musculaire aux potes.
Ah oui, ça, c'est bon, ça. Pectoraux ou autre.
Ça, ça serait...
Peu importe ce que tu veux remonter, t'en mets.
Oui, c'est ça.
Hein, tu comprends?
Oui, au bout.
Au bout.
Crème, bonbon. Non, mais c'est sérieux, là, Luc, là.
Je le sais, c'est sérieux.
Non, mais le pire, là, c'est qu'il légalise les nouveaux produits le 17 octobre, puis on va voter le 21. Tu penses-tu que c'est un hasard, toi?
Voyons donc! Bernard, t'es en train de dire des mauvaises choses sur les politiciens. Ils ne pensent pas comme ça. C'est la noblesse qui les guide.
C'est un complot.
C'est un complot. Tu penses, hein?
Justin, il veut qu'on aille voter pour lui, qu'on aille à nouveau voter pour lui pour une affaire de potes.
Et là, tu vois, notre super recherchiste Maryse me dit qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'utiliser le pot au lieu des fines herbes. Hein? Tu comprends maintenant? Pas obligé d'aller acheter les produits qu'ils vont vendre à la SQDC, là, n'est-ce pas? Tu peux, comme ça, te servir au lieu de mettre tes fines herbes dans ta salade. Là, tu prends ça, tu mets ton pot. Ah ouais, pardon, monsieur.
Non, mais c'est pas la SQDC qui va les vendre, ces produits-là.
Oui,
ça va être. Ben oui. Mais j'imagine qu'il va y avoir des petits commerces aussi qui vont pouvoir les vendre. Ou est-ce que tout va être vendu à la SQDC?
Uniquement. Et en exclusivité à la SQDC.
Ben là, ils vont faire des profits. On va pouvoir lui donner une augmentation. Ils n'auront pas besoin de faire la grève.
Ben non, ils n'auront pas besoin de faire la grève dès lors qu'ils vont commencer à nourrir la population. Parce que là, non seulement on va saouler la gueule de la population avec la SAQ en tant que gouvernement, on va leur faire les poches dans nos casinos, mais là, en plus, on va les nourrir. Tu comprends-tu?
Hey, des biscuits.
Monsieur, ça, c'est un État proactif, un État qui sait ce qu'il fait. Nous autres, on vend du pot. On vend de la bière.
C'est-tu fait pour nous endormir? Penses-tu qu'il veut nous geler, lui-là, là, avant qu'on aille voter?
il veut qu'on atteigne le même niveau de buzz que lui. Il a de l'air de buzzer beaucoup, là. Tu sais, quand il était en Inde, là, tu te souviens du buzz quand il dansait, il avait l'air de flotter dans l'air avec ses vêtements de Bollywood.
Non, ces temps-ci, il n'a pas l'air dans son assiette, notre Justin.
Non, ça ne va pas du tout. Mario Dumont a une très belle chronique ce matin, d'ailleurs, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal.
Il a fait beaucoup d'erreurs. Hein?
On dirait qu'il ne fait que ça depuis un certain temps. Comme le disait Mario Dumont ce matin, quand il a annoncé qu'enfin on allait pouvoir ratifier l'entente avec les Américains, tu sais, on était plusieurs à se dire, bon, enfin, une sortie de crise, on va recommencer à s'occuper des affaires du pays. Ben non, il a été sur les plages de Normandie, il a fait honneur, mais il a décidé de verser une petite larme. Mais là, il ne l'avait pas vu, c'est parce que nous autres, ça faisait 35-40 fois qu'on voyait la larme couler. Là-bas, ils ont trouvé ça très, très émouvant. Mais à part ça, là, je ne vois pas trop ce qu'il a réussi dans la vie. Puis son annonce sur le plastique, je maintiens, mais voyons donc.
Non, mais c'est sa réponse en anglais.
Sa réponse en anglais. Qu'est-ce que vous faites, vous et votre famille, pour faire votre part, pour combattre ce plastique qui est si destructeur pour l'environnement? Là, il y a puis il a fini par dire qu'il achetait de l'eau dans des contenants en papier. Puis là, il s'est repris cardboard. Ah oui, OK. Alors là, pauvre lui.
Mais c'est peut-être les sondages qui y rentrent dedans aussi un petit peu, parce que là, matin, il y a un autre sondage qui sort, un léger, publié par la presse canadienne, qui donne les conservateurs à 38, puis Trudeau à 29.
Ce qui confirme essentiellement la même tendance qu'Angus Reid avait identifié au
début
de la semaine.
Oui. Mais pas la même tendance que Nanos puis Campaign Research qui donne un avance seulement de 3 points aux conservateurs. Mais le fil conducteur des sondages des dernières semaines, c'est que Scheer est en avance. Et évidemment, il récolte les mésaventures de Trudeau sur SNC-Lavalin et tout le reste. Sais-tu quoi? Depuis l'histoire d'SNC, Luc, il n'est plus le même homme, Justin Trudeau.
On dirait vraiment... Moi,
sa confiance est atteinte. Il est atteint dans la tête. Je continue à penser
que ça remonte à son voyage en Inde, mais t'as raison, on dirait vraiment qu'ils ont comme cassé les genoux avec ça. Le gars a de l'air complètement perdu, complètement en dehors de sa zone de confort. Il n'a pas fait preuve d'aucun leadership. Il continue de naviguer à vue. C'est assez étonnant parce que le Parti libéral est une machine assez résiliente d'habitude qui contient suffisamment de gens qui ont beaucoup d'expérience. Moi, je pense que le départ de son bras droit, alter ego, son siamois, Gerald Butts, je pense que ça y est pour beaucoup. On dirait qu'il n'arrive plus à trouver pied ou que ce soit.
Il a perdu confiance complètement.
C'est comme un gardien de but. Là.
J'allais dire. Ça joue dans la tête. C'est dans la tête que ça se joue.
Pour te montrer comment je suis un vieux schnock, je me souviens de l'époque où il y avait le tournoi Coupe Canada, qui était un très beau tournoi d'ailleurs. Puis il y avait eu une équipe fabuleuse dirigée par Scotty Bowman, une équipe Canada, qui s'était présentée en finale contre l'URSS, comme on l'appelait à l'époque. Il avait mis dans les buts un certain Mike Liut, qui était un des gardiens de but les plus hot de la Ligue nationale. Il s'était fait planter 8-1. Puis vraiment, c'était comme si les ballons de plage pouvaient rentrer dans la place. Les gardiens, quand ça casse, c'est ça qui arrive. Puis des politiciens, mais...
Quand ça casse.
Ben, je dois dire, par contre, Bernard, que j'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais vu René Lévesque, Robert Bourassa, jamais vu Brian Mulroney.
Tu veux dire casser
comme ça? Non, jamais. Jamais. Je me souviens, M. Mulroney, après la mort de Meech, était sincèrement, intérieurement cassé, mais au lieu d'essayer de montrer qu'il passait par-dessus tout ça, il s'est en allé vivre dans ses quartiers, là, à Harrington Lake, puis il n'a plus fait de bruit pendant quelques mois, puis quand il est revenu, il était en plein contrôle. Mais Trudeau, on dirait qu'il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose dans la démarche, il y a quelque chose dans les gestes posés, certainement dans les mots utilisés. C'est assez dramatique.
Alors, il va peut-être falloir lui prescrire un petit gâteau aux potes.
C'est ça, c'était le temps qu'on légalise ça. Puis moi, je te propose, Bernard, en tant que chroniqueur qui parle souvent de ce monsieur, M. Trudeau, envoie-y donc un petit contenant de ton fameux pâté chinois. Aux potes!
Ouais, OK. Ben écoute, je vais te le faire essayer avant. Okay? On va te mettre en onde. Hein? Tu vas être mon cobaye.
Mais je pensais que t'en prenais avant d'aller en onde. C'est pas le cas?
J'essaie.
J'essaie
de me modérer. Bonne fin de semaine, Luc.
Salut, amuse-toi bien.
Salut à toi aussi. C'est évidemment Mythe et complot avec Christian Page, tout de suite après la pause.